Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias, je m'appelle Steven Jambeau et on est ensemble pendant une vingtaine de minutes si vous nous écoutez à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. Je vous parle cette semaine depuis les Assises internationales du journalisme qui se tenaient de mercredi à vendredi dans la ville française de Tours. La question cette année, les médias sont-ils tous les mêmes? Pour y répondre, je suis allé à la rencontre d'un historien des médias, d'un reporter du média français Brut qui s'est distingué dans la couverture en direct, en vidéo du mouvement des Gilets jaune et d'un journaliste confirmé qui a fait de la déontologie son cheval de bataille. Mais avant de les entendre, et au vu de l'actualité de ces dernières semaines en Algérie, je ne pouvais pas ne pas tendre mon micro au directeur du grand quotidien francophone algérien El Watan. Il avait fait le déplacement à Tours.
RFI.
Bonjour Amar Belouché.
Oui, bonjour.
L'Algérie est actuellement dans une situation exceptionnelle, c'est ce que vous disiez aux Assises du journalisme. Racontez-nous dans quelle mesure votre quotidien s'empare de cette situation exceptionnelle.
La situation est exceptionnelle parce que la population aujourd'hui est mobilisée par millions à travers l'ensemble du territoire national pour exiger le départ du système politique, le démantèlement du régime autoritaire qui a sévi depuis l'indépendance. Et bien entendu, pour un journal comme El Watan, qui a bâti un peu sa réputation sur la crédibilité de l'information, sur la qualité de l'information, et bien entendu, nous avons déployé un peu l'ensemble de nos effectifs. Nous avons analysé un peu cette mobilisation exceptionnelle avec des spécialistes. Nous avons essayé de couvrir l'ensemble de ce qui se passe un peu partout en Algérie. Ça, c'est un motif de regain professionnel, c'est un motif pour nous, cette mobilisation. Ça nous donne l'occasion de couvrir de manière très forte, mais aussi par des analyses et d'être à la hauteur de ce mouvement.
Et que doivent faire maintenant les journalistes algériens, justement, face à ce mouvement de protestation? Qu'est-ce que vous pensez que les Algériens attendent aussi de leurs médias?
D'abord, les médias publics doivent évoluer dans leur traitement de l'information. Il y a un effort qui est fait pour coller à la réalité, mais je trouve que c'est nettement insuffisant. Donc il y a déjà, comme vous le savez, un élan de protestation avec des démissions spectaculaires de pas mal de journalistes du secteur public. Donc les médias publics doivent évoluer.
Parce que vous disiez tout à l'heure, pendant votre intervention, que justement les médias publics n'avaient pas tout de suite traité le sujet des manifestations et au moment où ils ont commencé à le faire, ils ne l'ont pas fait de façon très professionnelle.
Absolument. Il y a une volonté de dévoyer la nature de ce mouvement en le présentant par moments comme un mouvement plein de violence, etc. Donc ce n'est pas du tout le cas, c'est un mouvement pacifiste, c'est une contestation pacifique qui cherche tout simplement à ce que la nature du régime change en Algérie.
Vous avez évoqué le rôle du peuple algérien dans la naissance même d'El Watan dans les années 90, le fait que le journal était né aussi d'un souhait du peuple. Là encore, si changement de système il y a, le journalisme et El Watan aura son rôle à jouer.
El Watan a été lancé par un groupe de journalistes en 90, suite au soulèvement populaire du 5 octobre 88. Ce soulèvement a permis au pays de se doter en 89 d'une constitution de type libéral qui autorise la création de partis politiques, qui permet à l'ancrage de le développement de la liberté d'expression et la liberté de la presse. Le parallèle avec 88, c'est que le mouvement aujourd'hui de protestation pour la construction d'un nouveau système politique, pour balayer le régime en place, aller vers la démocratie, permet à toutes les expressions libres et indépendantes dans mon pays de s'enraciner. Donc permet aux journalistes de travailler avec moins de pression et de développer un journalisme de qualité dans les prochaines semaines.
Parce que ces dernières années, justement ces dernières décennies, El Watan a connu de très nombreux procès. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là?
El Watan a été suspendu dans les années 90, on était entre le marteau et l'enclume. Il y avait les assassinats de journalistes par des islamistes. Les journalistes d'El Watan étaient ciblés autant que tous les journalistes algériens par des islamistes. Et il y avait de l'autre côté aussi l'appareil autoritaire, bureaucratique, qui s'est permis, au moment où des journalistes sont assassinés, de fermer le journal à 6 ou 7 reprises. Interdiction de publicité publique, près de 200 procès. Et donc la machine de la répression ne s'est jamais arrêtée. Elle ne nous a pas empêchés de continuer notre travail.
Et ces derniers jours, ces dernières semaines, est-ce que cette machine de répression est encore à l'œuvre ou alors est-ce que vous avez l'impression que tout s'effondre?
Bah écoutez, maintenant, le pays est en train de changer. Je vois mal l'autorité publique, l'autorité politique prendre des décisions de fermeture d'un journal ou de jeter un journaliste en prison comme ça l'a été à l'époque. La nature des rapports entre la société et le pouvoir ont complètement changé. Aujourd'hui, la population a pris son destin en main. Et l'avenir est beaucoup plus certain dans le sens d'une amélioration de la vie politique, de l'amélioration des libertés, de meilleur respect des libertés.
Et que peut-on souhaiter au quotidien à Louatane pour le futur, Omar Belouché?
Une amélioration des conditions économiques, parce que les autorités ont cherché durant toutes ces dernières années à nous mettre à genoux. Et je souhaite que nos difficultés financières soient surmontées.
Merci beaucoup, Omar.
Merci, je vous remercie.
Regardons maintenant de l'autre côté de la Méditerranée, en France. La confiance dans les médias y est sérieusement entamée. Mais c'est plus grave que cela. Les pressions et les attaques contre les journalistes et les médias se sont encore accrues en 2018 dans l'Hexagone, au point d'être une menace pour le bon fonctionnement de la démocratie. C'est le triste constat de l'Observatoire de la déontologie de l'information qui a publié jeudi son rapport annuel. Le problème s'aggrave, s'alarme l'ODI, mais il n'est pas neuf, m'a rappelé un historien des médias.
Je m'appelle Alexis Lévrier, je suis maître de conférence à l'Université de Reims et chercheur associé au CELSA et je suis spécialiste de l'histoire de la presse.
Vous avez raconté tout à l'heure lors d'une conférence que la haine et la détestation des journalistes existent depuis que la presse existe. Expliquez-nous.
Bien, depuis le XVIIe siècle, les premiers journaux apparaissent toute fin XVIe siècle, début XVIIe siècle. Eh bien, on a vu apparaître, notamment sur le plan littéraire, dans des comédies, dans des textes, des pamphlets, des critiques très fortes à l'égard des premiers journalistes, des premiers gazetiers. Et ça se prolonge tout au long de l'Ancien Régime, avec un imaginaire du journalisme qui apparaît très tôt, mais qui est un imaginaire et même parfois une obsession négative. On les critique, alors ça une haine qui vient des hommes de lettres, beaucoup, qui est aussi une jalousie, parce que ce pouvoir médiatique, il est en pleine expansion. C'est aussi un mépris de la part des politiques, mais un mépris très ambivalent, c'est toujours très schizophrène, tout ça. Les responsables politiques ont voulu très tôt instrumentaliser la presse et lui ont reproché de ne pas être assez aux ordres, de trop s'émanciper. Donc il y a cette question du pouvoir politique. Et il y a aussi la question des lecteurs eux-mêmes, et ça je pense que c'est vraiment ce qui est le plus directement lié à ce qu'on vit aujourd'hui avec les Gilets jaunes. Très tôt, les lecteurs ont pris l'habitude de critiquer la presse, de la commenter. Ils se réunissaient dans des cafés, dans des lieux publics, dans des jardins notamment, et ils avaient les journaux sous les yeux, les journaux français, les journaux étrangers, ce qu'on appelait les nouvelles à la main, des périodiques manuscrits. Et ils faisaient une comparaison, ils faisaient leur propre revue de presse, avec toujours l'idée que les journalistes mentent, que les journalistes manipulent, et que par conséquent, c'est au lecteur de décrypter, de trouver la vérité dans ce flot de mensonges. Et c'est comme ça que ces nouvellistes, exactement comme les Gilets jaunes aujourd'hui, ont fabriqué sous l'Ancien Régime énormément de fake news, énormément d'infox, comme on le dit maintenant, dans leur volonté de concurrencer les journalistes officiels. Donc, il y a un prolongement. Depuis 4 siècles, cette haine, elle vient à la fois du pouvoir politique, du milieu littéraire et des lecteurs eux-mêmes.
Alors, on a parlé d'une crise de confiance du public envers les journalistes. On va même parfois maintenant vers de la détestation, voire vers de la violence physique. On l'a vu dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes en France. Est-ce que tout cela est cyclique à travers l'histoire ou y a-t-il une accélération, une aggravation de cette défiance qui va vers la violence parfois ?
Je pense qu'il y a des périodes spécifiques comme ça, des périodes insurrectionnelles, où l'on va beaucoup contester les médias dominants. Ça a été le cas pendant toutes les grandes révolutions en France, avec, si on prend la révolution française de 1789, la volonté aussi de faire naître des médias alternatifs, ce qui a été le cas avec les Gilets jaunes. On critique les journalistes en place, mais on veut soi-même devenir journaliste, et on se sert des réseaux sociaux, notamment pour y parvenir. Donc ça, on le voit naître à peu près à chaque fois, avec un rejet des médias institutionnels auxquels on reproche, comme aujourd'hui, leur proximité avec le pouvoir. Et simplement, je trouve qu'on a franchi une étape là, et moi c'est ce qui m'inquiète là, pour le coup. Autant je pense qu'on peut relativiser et montrer que tout cela s'inscrit dans une histoire longue, autant on a vu avec les Gilets jaunes une violence ritualisée très tôt, dès les premiers actes. Le 24 novembre, il y a eu des scènes de lynchage à Toulouse contre des journalistes de CNews, des journalistes de BFM, avec une brutalité absolument inouïe que personnellement je n'avais jamais vue, et qui se sont répétées chaque samedi, avec même une concurrence entre les Gilets jaunes à celui qui le premier ferait la peau d'un journaliste. On a quand même vu des scènes de ce type. On a vu même des journaux qui avaient une bonne image, les journaux locaux, la PQR et la PQD, la presse quotidienne régionale et départementale, ont une bonne image en France. Or, on a tenté de bloquer des rédactions. On s'en est pris physiquement à des journalistes de cette presse-là également. Et tout cela me paraît pour le coup vraiment inquiétant.
Que faire justement pour renouer la confiance ?
Les journalistes doivent faire leur autocritique et ils ont commencé à le faire. Et je pense qu'ils s'interrogent sur leur formation, sur leur recrutement, sur le fait que 20 000 des 35 000 cartes de presse sont détenues par des journalistes qui habitent soit à Paris, soit en région parisienne. Il y a un éloignement avec le terrain, un éloignement avec les régions que les journalistes constatent eux-mêmes. Et maintenant, il va falloir, à mon avis, travailler, c'est l'universitaire qui parle, mais je crois vraiment que beaucoup de choses se jouent dès la formation et le recrutement. Il faut diversifier le recrutement des journalistes afin que ce recrutement corresponde davantage à la société française dans son ensemble. On n'a pas assez de diversité sociale, géographique, ethnique. On peut travailler sur ces questions-là afin que les Français se reconnaissent dans les journalistes et qu'il n'ait pas ce sentiment d'une coupure avec le pouvoir médiatique.
Merci Alex Lévrier.
Merci à vous.
D'après le dernier baromètre Via Voice, 91% des Français jugent que le journalisme est un métier utile. Mais près de 2 Français sur 3 estiment que les médias disent tous la même chose, ou presque. Le mouvement des Gilets jaunes a peut-être encore accentué ce sentiment, puisqu'un Français sur 2 juge qu'il a été mal couvert par les journalistes. Toutefois, un média s'est distingué et n'a pas subi sur le terrain la vindicte populaire, contrairement à d'autres rédactions. Il s'agit de Brut, dont un reporter est spécialisé dans la couverture d'événements en direct, en vidéo.
Oui, donc je m'appelle Rémi Buzine, j'ai 28 ans et je suis journaliste à Brut depuis 2016.
Alors chez Brut, vous êtes reporter et notamment en charge du live vidéo. Et ces derniers mois, vous avez notamment été très remarqué en couvrant les manifestations des Gilets jaunes, notamment dans la capitale, à Paris. Alors qu'on parle d'une crise de confiance des citoyens envers les médias, on s'est remarqué que Brut est bien bénéficié d'une certaine sympathie, ou en tout cas était très suivi et peu critiqué ou jugé par les gens qui suivent le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous vous attendiez à ça ?
Pas forcément, parce que c'est vrai qu'on s'y attend pas à la base, mais on l'a remarqué assez rapidement, au bout de quelques semaines de couverture. On a eu des audiences très rapidement exceptionnelles et jamais atteintes depuis le début du lancement de Brut sur le live. Et un accueil sur le terrain assez positif qui s'expliquait pour plusieurs raisons. En tout cas, c'est ce que me disaient les manifestants par rapport au fait que comme il n'y a pas de montage, pour eux, ils ont plus de confiance. Et moi, je le remarque beaucoup parce que c'est vrai que les mouvements sociaux, je les couvre depuis plusieurs années. J'ai couvert aussi le mouvement Nuit Debout. Et c'est là que j'ai commencé à pouvoir y faire certains parallèles. Des parallèles dans le sens où on voyait que les personnes, quand vous allez vers elles pour les interroger, quand vous leur dites que c'est du direct et que l'intégralité de leurs propos seront diffusés, tout de suite, la porte est ouverte. Il y a beaucoup plus de facilité pour que les gens parlent. Parce qu'il faut se dire quelque chose, c'est que dans les mouvements sociaux, quand vous venez dans la rue pour manifester, vous ne le faites pas par plaisir, vous avez des choses à dire, et le fait de pouvoir parler, que ce soit un micro, une caméra ou un journaliste de presse écrite, de façon générale, les gens sont plutôt contents de le faire parce que ça permet de donner un écho à leurs paroles. Donc, quand ils trouvent le support adéquat pour le faire, ils le font, et en l'occurrence, le live permet de répondre à une partie du public, parce que ce n'est pas non plus l'ensemble des Gilets jaunes ou des manifestants en général, mais une partie des personnes qui ont une méfiance, une défiance envers la façon dont travaillent les journalistes, donc c'est-à-dire les critiques qu'on peut parfois nous faire, qu'est-ce que vous allez nous interroger pendant 3-4 minutes, qu'est-ce que vous allez diffuser, qu'est-ce que vous allez mettre autour de mon propos. Et ça permet de répondre un peu à ça. Mais moi, à la base, je ne m'étais pas du tout lancé dans le live avant Brut pour répondre à une défiance envers les médias traditionnels.
Et on sait que certains journalistes français, notamment de chaînes d'information en continu, ont été menacés, molestés dans les manifestations. Ça n'a jamais été votre cas ?
Jamais, jamais. Après, on peut parfois avoir des gens qui sont un peu plus vifs, qui parfois généralisent, qui parfois veulent vous faire des critiques ou autre, mais jamais eu de graves incidents comme malheureusement ça a pu arriver à d'autres confrères.
On observe qu'en France, vous détonnez un petit peu dans le paysage médiatique par ce suivi du live, c'est votre marque de fabrique, et que peu de médias ont suivi en fait dans cette idée d'ouvrir un live et de le poursuivre pendant des heures durant jusqu'à ce que l'événement s'arrête parfois. Comment expliquez-vous qu'aucun autre média n'ait véritablement pris autre suite ?
C'est vrai qu'on pourrait faire un live de 30 minutes ou une heure comme certains. Mais moi, je considère que c'est intéressant de pouvoir faire du très long parce que ça permet de montrer l'ensemble des choses de ce qui se passe sur une journée. Après, libre à chacun de regarder 5, 10 minutes, 15 minutes comme un programme télé. On a une liberté de temps. Profitons-en. Moi, j'ai toujours pensé que le manque de temps, c'était un peu l'ennemi du journalisme. Le live permet de répondre à cela parce qu'on a du début de la scène jusqu'à la fin de la scène. Et après, à chacun de se faire son opinion sur ce qui s'est passé et de comprendre. Et le live permet ça.
Merci Rémi Buzy. Voilà. Par son approche sur le terrain, sans filtre et sur la durée, Rémi Buzine a su dialoguer en tant que journaliste avec des gilets jaunes, malgré le fort ressentiment de certains d'entre eux contre les médias. La profession dans son ensemble a encore beaucoup à faire pour gagner en considération. Pour que les journalistes ne soient pas perçus comme des gêneurs du débat public, il leur faudra faire une autocritique poussée, nous explique notre dernier intervenant.
Pierre Grance, journaliste, ancien de Radio France Internationale. Aujourd'hui, je suis vice-président de l'Observatoire de la déontologie de l'information. Et j'ai aussi une chronique mensuelle sur les questions de déontologie pour l'Union de la presse francophone.
Pierre Grance, le thème de ces 12e éditions des Assises internationales du journalisme, c'est « Les médias, tous les mêmes ?» Point d'interrogation. Comment est-ce que vous percevez cet intitulé ?
Les critiques des médias ont tendance à dire ils disent tous la même chose, ils ne savent pas de quoi ils parlent, etc., etc. Donc poser cette question, c'est essayer de susciter une introspection pour savoir si effectivement nous faisons, nous, gens de médias, tous la même chose, si nous n'avons pas de recul. En fait, c'est une réponse aux critiques qui se sont exprimées au moment de la crise des Gilets jaunes et avant, sur le fait que les médias étaient uniformes, sur le fait que les médias véhiculaient la même idéologie, sur le fait que les médias ignoraient une partie de la population.
C'est une crise de confiance. Y a-t-il eu un manque d'autocritique de la part des journalistes ?
C'est une crise de confiance qui a été aussi alimentée par des propos anti-médias, anti-journalistes, qui ne sont pas toujours dignes dans une démocratie, de la part de responsables, de hautes personnalités de l'État, d'hommes politiques. C'est aussi une crise de confiance qui est due au fait que les journalistes n'ont pas compris que nous sommes maintenant à une époque où ils travaillent sous le regard critique facile et permanent. Je dis facile parce qu'il est facile d'exprimer la critique aujourd'hui, facile et permanent du public. Les journalistes doivent accepter aujourd'hui d'être soumis à la critique, de s'enrichir de cette critique, de dialoguer avec les gens qui les critiquent, d'écouter ces critiques, de modifier leurs pratiques s'il faut les modifier sur la base de ces critiques. On ne peut plus dire nous sommes journalistes, nous sommes un peu au-dessus, nous avons enquêté, nous sommes dans une position supérieure. C'est plus vrai. La théorie du journaliste qui n'a des comptes à rendre qu'à lui-même et à ses pairs est une théorie caduque.
Vous pointez aussi que la crise économique des médias actuels a un impact très direct sur la condition sociale des journalistes et que donc cette autocritique est un petit peu compliquée parce que les journalistes doivent, pour certains en tout cas, se battre au quotidien pour leur propre situation, voire parfois pour leur survie.
Oui, ce que je pointe par là, c'est que quand vous êtes dans une rédaction, quand vous êtes pigiste, pas bien payé, votre premier souci, c'est bien sûr de faire votre métier, mais c'est aussi de gagner votre croûte. Hein. Et quelquefois, les pressions qui vous amènent à être moins rigoureux en matière éthique, ces pressions, elles sont à mettre dans la balance avec la nécessité de gagner sa croûte. C'est ça ce que je veux dire, c'est qu'un respect de la déontologie, c'est aussi un respect des conditions de travail et de rémunération des journalistes. Un journaliste mal payé, un journaliste menacé de licenciement en permanence, n'est pas un journaliste qui peut être très exigeant sur le respect de la déontologie, quelles que soient ses qualités et quelle que soit la volonté qu'il en a.
Quelles sont les raisons d'espérer, justement, que l'on ressorte par le haut de cette crise des médias actuels ?
Je pense qu'il y a une prise de conscience du public et des journalistes qu'on ne peut pas rester dans cette incertitude actuelle et dans cette dégradation continue de la qualité de la relation entre le public et les journalistes et de la qualité de l'information. Et que si on restait dans cette dégradation, c'est la démocratie elle-même qui serait sapée encore davantage qu'elle ne peut l'être aujourd'hui. Il y a la nécessité de se ressaisir pour que l'information qui soit donnée au public soit plus sérieuse, plus rigoureuse. Le journaliste aujourd'hui, c'est plus forcément celui qui amène un fait. Le fait, on va le trouver peut-être sur les réseaux sociaux ou ailleurs. C'est celui qui valide la réalité de ce fait. C'est celui qui le vérifie. C'est celui qui dit au public, oui, là, il y a quelque chose qui est vérifié, qui est établi selon des règles, j'allais dire scientifiques, en tout cas d'honnêteté professionnelle. On peut penser qu'à terme, cela permettra d'améliorer les choses.
Merci Pierre Gantz.
Merci à vous, bonne journée.
Et je rappelle que vous êtes l'auteur de Chroniques de déontologie, paru en 2018 chez Rive-Neuve. C'est la fin de cette émission consacrée aux Assises du journalisme que vous pouvez entendre en version longue sur notre podcast. Simon de Creuse était à la réalisation, Steven Jambeau au micro. La semaine prochaine, notre émission sera consacrée à la semaine de la presse et des médias dans l'école. D'ici là, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner au podcast de l'Atelier des médias.